Je disais que on se disait avec Nancy qu'on se retrouvait les mêmes au même endroit 2 ans plus tard, puisqu'on était toutes les deux. Il y a 2 ans ici, quand je présentais la mise en scène que j'ai faite du roman de Nancy Huston, L'hymne de Faye. C'est une drôle d'histoire d'ailleurs, hein, Nancy, il faut que je te dise, puisqu'on vient juste de se retrouver là. C'est un spectacle qui a bien vécu et on l'a repris là le week-end dernier.
Oui.
Parce qu'il y avait un directeur de théâtre qui nous l'avait demandé plusieurs fois et on n'avait jamais pu parce qu'il y avait toujours un comédien qui n'était pas libre. Et je me suis dit que ça valait le coup de récompenser sa fidélité. Et donc on l'a joué alors que ça faisait un certain moment qu'on ne l'avait pas joué. Et j'ai été, mais vraiment très émue de retrouver une telle ferveur du public. Il y a eu des rappels à n'en
C'était
plus
où?
finir. C'était à Châtenay-Malabry.
D'accord.
Et oui, je dis ferveur parce qu'il y avait une dame, entre autres, qui ne criait pas bravo, mais merci, merci, merci. Et on sentait que ça, oui, ça, voilà, ça provoque des choses importantes. Et j'étais finalement très heureuse, alors qu'après, je me disais, oh, le reprendre pour 2 dates, c'est idiot.
Mais
Et.
c'est incroyable qu'ils puissent retrouver le texte dans leur mémoire après un an. C'est fantastique,
Phénoménal. Quand on l'a
phénoménal.
repris,
Parce que c'est quand même 4 heures de spectacle.
et puis on reprend, vous savez, avec en réglant en même temps tous les problèmes techniques, les problèmes de micro, les problèmes d'espace, etc. Et à un moment, avec le régisseur Lumière, il me dit, avant d'enchaîner, on ferait bien de faire un récapitulatif du changement de décor, parce que c'est tellement minutieux, les maquettes, ceux qui ont vu le spectacle, on change les maisons pour des sapins, etc. Il y en a deux à la face, il y en a deux qui sont là. Et donc il me dit, on ferait peut-être bien de récapituler ça pour pas le faire plusieurs fois. Et je lui dis, mais un peu comme un pari idiot, je lui dis, non, non, on va le faire une fois et tu verras, on n'aura pas besoin de le reprendre. Et ben c'était vrai. Il se
Incroyable.
souvenait même de ça, c'est-à-dire pas
Ouais,
seulement
ouais,
du
ouais,
texte, mais
ouais.
y compris la mémoire du corps. Et je dois dire que les comédiens sont particulièrement heureux de se retrouver sur ce spectacle. On sent, il y a un côté quoi, il replonge dans une chose
Oui,
qui les
on
porte
me
vraiment.
demande souvent si je l'ai vu et ensuite je vois les sourcils se lever quand je dis oui, cette fois. Cette fois, dans cette ville différente. J'ai adoré. Oui. Et j'ai
Donc,
pleuré la dernière
oui, je lui ai dit, pourtant,
fois.
tu sais comment ça finit, hein.
C'est fou.
Donc là, on se retrouve non pas du tout pour l'hymne de Faye, mais je dois vous avouer que je suis très très honteuse parce que donc j'étais ravie quand on m'a invitée à venir retrouver Nancy Huston. Je laisse d'ailleurs des répétitions pour ça. Et donc, je pensais que nous parlerions de l'actualité, ce qui était pour moi l'actualité de Nancy, qui est le Club des miracles relatifs, son roman dont nous allons parler absolument. Mais comme Nancy a une production absolument incroyable, je ne savais pas que son actualité éditoriale était bien plus importante que ce que je croyais, et que donc sont parus récemment La fille poilue, qui est un petit conte que tu as fait avec Guy, peintre dont
Guy
tu
Aubersson.
partages la vie, et Les carnets de l'incarnation. Donc je ne vais pas faire comme dans certaines émissions de télé où on fait semblant d'avoir lu les livres. Je ne les ai pas lus, donc je vais laisser Nancy en parler, parce que sinon ça serait de l'imposture.
Je commence par ça alors. Oui, parce que le roman Le Club des miracles relatifs est en fait terminé depuis un bon moment, depuis un an à peu près ou presque. Mais c'est les aléas du calendrier éditorial. Acte Sud a décidé de le sortir maintenant. Et je me suis dit, voilà, c'était un peu le moment de refaire un recueil. Donc, c'est le troisième recueil. Je vais vous lire l'introduction. Et comme ça, vous verrez si vous avez envie d'aller plus loin. Mais graphomane impénitente. Car écrire est ma façon de supporter le monde. Il semblerait que tous les 10 ans, peu ou prou, j'éprouve le besoin de rassembler mes textes épars. Après Désirs et réalités, donc 95, et Hommes et corps, 2004, voici donc Carnet de l'incarnation. Comme les précédents recueils, celui-ci comporte conférences, préfaces, contributions aux revues littéraires et articles de journaux. J'ai notamment repris la plupart de mes chroniques publiées dans le journal Le Monde en 2011-12. pour la première fois, peut-être en raison de certaines bifurcations dans ma vie affective, j'ai aussi choisi d'inclure des extraits de mon propre journal, composé en italique au début de chaque carnet. Ces textes se complètent ou se contredisent, se chamaillent et se marchent sur les pieds. Sans chercher à les faire chanter à l'unisson, j'en ai élagué certains pour éliminer les bégaiements. Fidèle en cela à Romain Gary, mon maître S schizophrénie, j'assume le fait d'avoir plusieurs voix. Ainsi que le suggère son titre, le livre parle surtout des corps de femmes bien sûr, mais aussi cette fois autant sinon davantage des corps d'hommes. Peut-être parce que je suis moins dragable à 50 ou 60 ans qu'à 20 ou 30, les hommes se sont ouverts à moi ces dernières années, m'amenant à réviser bon nombre de mes certitudes féministes. Je tiens à remercier surtout le trio Jean-Philippe Viré avec qui j'avais fait un CD et spectacle qui s'appelait « Le mal entendu ». Il est question dans ce livre de guerre et de prison, de transgression, de terreur et de torture. Il y est question aussi d'inceste et de pédophilie. Toute la panoplie de mots dont l'homme se pare pour prouver qu'il n'est pas bête. Même les textes plus purement littéraires portant sur Romain Gary ou Simone de Beauvoir mettent au premier plan le corps de l'écrivain, de l'écrivaine. Et le corps de cette écrivaine-ci, celle qui trace les mots que vous lisez en ce moment, disons qu'il se porte comme un charme, mais ne se leurre point. Il sait qu'il n'aura pas à concocter beaucoup d'autres recueils. Un, deux à tout casser, car il entame les derniers chapitres de son histoire. Alors qu'à l'âge de 20 ans, je le haïssais et m'acharnais contre lui, le privant de nourriture, de sommeil et de plaisir, je dois dire qu'on s'entend de mieux. On s'entend mieux avec chaque année qui passe et que l'idée d'avoir un jour à lui céder la victoire ne me dérange pas. Livre de chair, disait Faust. Carnet de l'incarnation, réponds-je.
Qu'est-ce qu'on fait ? On zigzague ? Gentiment ? Par, sur donc, le club des miracles relatifs, tu disais que tu l'avais écrit... il y a maintenant un petit moment, et effectivement, quand on se voyait plus souvent, plus régulièrement, puisque j'étais plus proche de toi...
Géographiquement.
Géographiquement, pardon. tu partais au Grand Nord canadien pour aller visiter ces chantiers horribles, enfin horribles pour la planète, horribles pour la Terre qu'ils dévastent, qui sont, vous savez, les grands chantiers où on extrait les sables bitumineux, puisque on va chercher du pétrole de façon de plus en plus difficile et de plus en plus dommageable.
Oui.
Et je m'étais dit, quand tu étais partie, que tu étais revenue en me parlant de ça, en me parlant du choc que tu avais ressenti, je m'étais dit qu'il était à peu près impossible, que ça devait être très très compliqué d'écrire un roman écologique. Et j'ai été absolument éblouie de la façon dont tu, à ta manière tellement forte, tu arrives à mêler l'histoire avec un grand H et l'histoire humaine, c'est-à-dire à transformer cette écologie, ou en tout cas le scandale que peut provoquer une tendance de notre époque, à le transformer en fable. Et quand je dis fable, c'est même pas seulement à son sens générique, c'est-à-dire de récit, mais aussi au sens presque fantastique. Et entre autres, je me souviens que tu étais revenue en disant que par rapport au ravage de la terre, par rapport au ravage des paysages, par rapport au ravage de la santé des gens qui y travaillent, tu avais été très marquée par une aporie totale du langage, que j'ai retrouvé dans ce livre sous forme de slogan, et je me disais, c'est réellement ce que tu as lu ou c'est de la fiction, ces slogans ou ces choses tellement sibyllines?
J'aurais dû mettre en italique ou en caractère gras tout ce qui dans le livre est une citation authentique, parce que souvent la réalité est vraiment plus étonnante et incroyable que la fiction. Et donc ce à quoi Catherine fait allusion là, ce n'est pas une invention. Peut-être que j'en rajoute un peu, mais à peine. Parce que juste pour vous décrire cette situation, c'est un peu le Klondike. 120 ans après La Ruée vers l'or, c'est La Ruée vers l'or noir, et c'est tout simplement l'installation humaine la plus importante à la surface de la Terre. Et c'est une exploitation pétrolière de la taille de la Floride, dans le nord de ma province, qui est une province gigantesque. Et donc, moi, j'ai grandi dans le sud, mais là, je parle de quelque chose qui est à 1 500 km vers le nord-est et qui s'étend. Il y a 300 compagnies du monde entier. Il y a des compagnies chinoises. Qui viennent du golfe Persique, il y en a évidemment beaucoup de compagnies américaines, canadiennes, etc. Notre premier ministre à l'époque, Stephen Harper, était lui-même fils de grande pointe du pétrole. Et donc, puisque ces gens viennent de pays qui, le plus souvent, les hommes qui travaillent dans ces mines vraiment effrayantes, viennent de pays qui ont des soucis économiques, etc. Ils parlent toutes sortes de langues différentes, mais ils ne parlent pas l'anglais. Donc, les panneaux d'affichage, quand on traverse la ville, c'est vraiment comme dans 1984 d'Orwell. On ne peut pas croire qu'on est en train de voir ce qu'on est en train de voir. Donc, ça donne. Soit, mais surtout soit, juste le mot bille. Et j'ai fait des photos parce que c'est incroyable. Ça dit des énormes panneaux qui disent bille, bille, bille. Et c'est parce que c'est le premier mot qu'on va apprendre quand on apprend l'anglais, j'imagine. Je ne sais pas. To be or not to be, that is the question. Et donc ça donne soit choisis ta vie, ose ou meurs. Sois unique, gagne plus, sois plus, tu es toi, tu es grand, sois plus, gagne plus, défends ton turf, la taille compte, tu comptes, mais pour de vrai, c'est comme ça,
c'est fou.
C'est comme ça. Autre chose très étonnante qui est authentique, c'est le manuel d'instruction pour aider les nettoyeurs de déversements pétroliers. Donc là, c'est des citations exactes qui donnent donc aux médecins qui vont avoir affaire à des hommes en train de. C'est un peu comme après une explosion nucléaire, si vous voulez. Si vous passez beaucoup de temps à nettoyer un déversement pétrolier, vous allez très mal physiquement. Donc ils doivent préparer ces médecins. Mon personnage principal est un infirmier. À faire face à ces problèmes. Et ça donne un effet comique, en fait, tellement c'est incroyable. Autre citation, c'est les instructions pour les vêtements, les habits que doivent porter les femmes qui font la danse poteau. Donc,
C'est
parce que
véridique aussi?
c'est véridique. Je vous lis ça?
Ah oui.
Ah non, parce que on ne croit pas ses yeux. Donc, voici. Ouais, ça me fait plaisir de vous lire ça. J'ai encore jamais lu ça pour quelqu'un. Quand voici 3 ans, donc on parle d'une jeune chinoise, elle avait commencé à prendre des cours de danse poteau, voulant retrouver sa forme physique et mentale après le bébé et la tragédie. Chaz, c'est son mari, en avait fait tout un fromage. Elle lui avait patiemment expliqué que le but de cette activité n'était pas le sexe, mais le fitness. Pour le convaincre, elle l'avait fait asseoir dans un fauteuil et lui avait apporté le règlement du concours où il était stipulé à de nombreuses reprises que le spectacle ne devait comporter aucun élément sexuel ni sensuel. Donc, je cite, des actes de masturbation, de même que tout autre comportement indécent, sont proscrits. Il est interdit d'ôter des habits entre le cou et les genoux, même si on porte d'autres habits dessous. La musique ne doit contenir aucun mot obscène et les paroles ne doivent pas être ouvertement suggestives. Le temps de son règne, la championne s'engage à ne pas apparaître dans un support pornographique imprimé ou filmé. L'accent doit être mis sur la forme physique et la présentation, non sur la sensualité. Aucune suggestion sexuelle ne sera tolérée. La suggestion sexuelle est définie comme tout mouvement explicitement érotique ou séducteur. Putain, c'est quoi ce beans? Avait dit Chaz en abaissant violemment le document contre ses cuisses. T'es folle ou quoi? Je t'en prie, Chaz, lis la suite. Il est interdit de donner un spectacle en étant nu ou partiellement nu, même involontairement. Si vous avez des doutes au sujet de votre costume, scotchez-le à votre peau. Un bas complet est défini comme un bas qui recouvre le fessier aux deux tiers. Des rotations du pubis au sol ou au poteau ne sont pas acceptables. Le bounce dancing et le twerk ne sont pas acceptables. Putain, c'est quoi le twerk? Ça veut dire, je crois que c'est une certaine façon de se remuer le popotin, tu sais, comme le font parfois les Africaines. Mais dans la danse poteau, c'est exclu, tu vois, interdit. Pour de vrai, Charles, c'est une affaire réglo. Si l'on dessine un angle droit en prenant comme vertical l'arrêt fessière, marqué comme 0 degré, et comme horizontal le repli fessier, marqué comme 90 degrés, l'angle de couverture ne doit pas être inférieur à 60 degrés. Une couture intérieure de 2,5 cm est obligatoire, à moins que le costume ne recouvre complètement le pli du fessier. Le haut ne doit pas montrer un décolleté excessif. À partir du sternum, il est recommandé d'avoir au moins 2,5 cm de couverture entre le bord inférieur et le bord supérieur du costume. Ce chiffre se réfère directement à la partie du costume située au centre de la poitrine. Oh, génial, Eileen! T'entends pas comme c'est pervers ce truc? C'est plus tordu que tout ce que j'ai pu voir sur le web. Comme ça, il y a des mecs qui vont tourner autour de toi avec des compas et des mètres à ruban pour voir jusqu'où tu révèles ton cul et tes nichons. Non, mais ça va pas, non, t'es mère, t'as oublié, t'as un petit garçon. Je t'interdis de t'embarquer là-dedans, de près ou de loin.
C'est vrai. C'est et ça, c'est réel.
Authentique, mot à mot.
Et où tu as trouvé ça?
Sur le net. Parce que on est allé, j'ai fait ce voyage très, très étonnant, inoubliable, avec mon chéri, Guy Auberçon, et avec un ami canadien, Jean Morisset, qui est géologue et poète, moitié indien. Et donc, on a bourlingué, on a pris des tout petits avions, etc. On est allé dans des endroits où on n'était pas censé aller. Et le dernier soir, j'ai obligé ces hommes d'aller dans la boîte de striptease, parce que voilà, c'est des hommes qui sont seuls. Je parle des employés. Et il y a des dizaines de milliers d'hommes seuls qui restent là et qui bossent 12 heures par jour, 7 jours par semaine, 2 semaines sur 3 ou 3 sur 4, je ne sais plus. Et ensuite, ils regardent la télé pendant qu'ils sont en repos et puis ils recommencent. Et donc forcément, voilà, ils sont en manque sexuel et il y a, je ne sais combien de dizaines de pages escortes, de annonce escorte dans le bottin local, etc. Et voilà, ça s'est passé autour de tous les Klondike de l'histoire. Mais là, ça prend des formes un peu singulières. Et on va. Et donc, j'ai vu pour la première fois de ma vie ce type de spectacle. Et j'ai écrit ce chapitre sur la jeune chinoise, en fait, celle qu'on a regardée ce soir-là. Il y avait plusieurs, mais la première était juste fantastique. J'étais bouche bée. C'était une très grande danseuse. Enfin, elle était, c'est moitié acrobatie, moitié danse. C'était très sexuel, sexy, sensuel. Et on sentait les hormones dégouliner dans l'air. C'était une situation inouïe. Et donc, voilà, c'est tous les soirs dans cette ville, ces hommes qui sont loin de chez eux, qui sont Libanais, qui sont Syriens, qui sont Chinois, qui sont Colombiens, Africains, et qui...
Et c'est très beau ce que tu dis, parce que ça anticipe quelque chose que j'avais pensé de dire plus tard, mais par rapport, évidemment, forcément, le rapport à la féminité ou au féminisme même est très très fort. Le récit de cette jeune femme chinoise dont on a l'impression effectivement que c'est une grande danseuse, une athlète, quelque chose qui est et ça m'a fait penser au burlesque que tu connais, c'est-à-dire comme si les femmes reprenaient. Vous connaissez le burlesque, hein, des jeunes femmes qui font des numéros qui peuvent être qui sont des striptease, qui sont totalement calqués sur ce qu'étaient les striptease avant, mais dont on sent qu'elles le font, d'où le nom de burlesque, avec l'ironie ou la distance qui leur permettent de le prendre en charge et de ne pas être des objets, oui, voilà,
c'est
absolument.
C'est réinvesti de beaucoup de volonté, beaucoup d'humour, oui, de deuxième degré. C'est
ça. J'ai vu des vrais gymnastes.
Ouais.
J'ai vraiment vu des filles faire des choses inouïes dans le burlesque.
Ouais.
Donc, par rapport à ce que tu décris du chantier, de ce fameux monde qui existe, donc, que tu rapproches de 1984, c'est-à-dire de quelque chose qui, effectivement, pour nous, est comme un univers d'anticipation, bien que ça existe déjà, mais il y a une chose qui m'a beaucoup troublée et que j'ai trouvée très, très forte et qui, je trouve, est quelque chose qui existe de manière très forte aujourd'hui, c'est que tu fais se heurter de manière, comment dire, très contrastée, deux univers, c'est-à-dire tu as parlé de ton personnage principal, qui est donc infirmier dans ce no man's land, ou enfin dans cette horreur de chantier, mais qui n'est pas né là, comme personne, enfin comme tous les gens qui travaillent, ils ne sont pas nés là. Et on a l'impression que il est né non pas dans un monde juste avant, mais dans un monde bien avant. C'est-à-dire que son univers de naissance est comme un conte de fées, une petite chaumière, des gens qui s'aiment à la folie, lui qui naît miraculeusement de parents qui pensaient plus avoir d'enfants. Mais vous voyez vraiment les petites chaumières comme dans les contes, avec une maman qui cuisine avec du temps, avec une cheminée qui fume, avec un papa pêcheur. Et je trouve que c'est quelque chose qui existe fort dans notre inconscient aujourd'hui. Je le vois par exemple vis-à-vis des jeunes gens qui m'amènent des projets. C'est-à-dire que c'est souvent une anticipation archaïque. Je m'explique. C'est-à-dire des gens qui vont vivre sur les lieux de Tchernobyl, par exemple, où il y a une faune et une flore qui se développent maintenant parce que c'est à l'état sauvage, il n'y a plus de présence humaine pour les gêner, on va dire. Et donc ces jeunes imaginent de recommencer à zéro une vie. C'est-à-dire recommencent et essayent de dire qu'ils font une communauté où on réinvente tout à zéro, c'est-à-dire là vraiment le plus archaïque, le plus primitif, où effectivement on pêche pour manger, où on cuisine pour manger, où et je trouve ça très, oui, très fort dans notre tête, même de façon inconsciente.
C'est presque difficile de se rendre compte de la rapidité avec laquelle le monde a changé ces 30 dernières années. Donc, mon personnage, il a 30 ans, au moment où le plus important de l'histoire, et je l'ai fait naître en 79, quand on a foré, en fait, les tout premiers puits de pétrole offshore par rapport à sa province natale, qui est Terre-Neuve. Et jusque-là, c'est vrai que Terre-Neuve était dans le monde d'avant. On avait modernisé un petit peu la pêche, etc. Mais dans les années suivantes, on a commencé cette chose qui s'appelle la surpêche et qui fait que voilà, des énormes bateaux, y compris norvégiens ou chinois, pouvaient venir dans ces eaux-là et plonger. Donc le Canada et les États-Unis s'y sont mis au moins autant. Ils ont utilisé les techniques développées dans la Seconde Guerre mondiale pour les sous-marins chasseurs. Et ils ont fait la guerre aux poissons. Et ça paraît un sujet très peu littéraire, mais en fait, tout est littéraire parce que ensuite, qu'est-ce qui se passe? Tu as une catastrophe, on a une catastrophe humaine qui est un moratoire sur la pêche à la morue, qui va être vraiment le désastre de la vie de cette petite famille parce que Terre-Neuve vivait de la pêche à la morue. Et voilà, il n'y en a plus, il n'y en a plus, et on interdit la pêche à la morue. Donc, il y a 30 000 chômeurs en un seul jour. En un jour, tout le monde, la province s'effondre, l'économie de la province s'effondre complètement. Et il y a des milliers de Terre-Neuviens là-bas en train d'excaver les sables bitumineux pour sortir le pétrole en Alberta. Donc, vous imaginez le nombre de familles que ça a brisées. Et toute famille brisée est un très bon sujet littéraire. Mais je peux peut-être lire le début, juste la scène de sa naissance,
Ah oh oui, c'est bien.
qui correspond d'ailleurs pas mal à celle de mon ami Jean Morisset. C'est-à-dire, vous n'allez pas croire, mais c'est vrai. C'est vrai. Ça s'appelle Poil. le chapitre. Des mouettes tournoient en criant dans le vent et une pluie glaciale griffe le ciel gris sombre du crépuscule tandis qu'ils se dirigent vers le rivage. Les autres hommes voient que Ross McLeod est inquiet, non affolé. Il a le regard baissé et la langue immobile. A-t-il bien fait de sortir avec eux ce matin ? Qui peut le dire ? Une pluie glaciale griffe le ciel gris sombre. Leurs mains sont fermées sur le plat-bord et la coque est pleine. Oui, pleine à craquer de morue. Des douzaines de beaux et gros poissons à la peau tachetée, brillante et au visage souriant. Oh, ça ne les dérange pas qu'on les attrape. Voilà 5 siècles que le long de cette côte, ils se jettent, pour ainsi dire, dans les filets des pêcheurs pour être remontés, puis séchés, fumés, salés et envoyés vers l'est à travers l'océan ou vers l'ouest à travers les provinces de l'Over North ou alors apprêtés et dévorés ici même sur place. Oui, Dieu avait gratifié l'île grise d'une pêche miraculeuse que l'on eût dite jusqu'à cette dernière décennie perpétuelle. Le visage de Ross est tout plissé d'inquiétude car Béatrix, son épouse et folle amour, attend un enfant à l'âge de 45 ans. Ils avaient cessé de prier pour fonder une famille il y a belle lurette et du reste n'avaient même pas regretté d'être sans enfant. Fous qu'ils sont l'un de l'autre, elle d'ascendance allemande, lui écossaise, elle catholique, lui protestant, elle artiste de ses fourneaux, lui de sa goélette. Elle de nature sincère et abstinente, lui peut-être un peu trop porté sur l'aberlour et le calembour. Elle, son aînée de 7 ans, les deux ravis le soir venu de rejoindre dans une salle des fêtes ou une cuisine leurs amis et voisins en train de gratter la guitare, de serrer l'accordéon et de chanter la côte rugueuse, le violent vent du nord-est, le poisson et la passion, la pluie et le vent et la mort par noyade sur des airs venus d'Irlande, d'Écosse et de leur propre île grise bien-aimée. Ross et Béatrix McLeod sont des piliers de ces soirées pectances et bombances. Le vent mouillé plaque les cirés au corps des hommes, s'efforce d'arracher à leur tête les chapeaux gris ou jaunes à la visière baissée. Ce qui était de la pluie en mer s'avère être de la neige sur le rivage, un vrai blizzard. À la fin mai, ils voient la blancheur de loin. Alors qu'ils luttent pour se mettre à quai, la peur qui fermentait dans les tripes de Ross se déplace vers le haut et le dehors, lui serre la gorge, lui fige le visage et les mains. Une grosse cloche de peur se met à sonner dans sa tête. Et si, ses 4 potes en captent le carillon. Vas-y, lui disent-ils, dès la corde lancée. Nous aide pas à décharger, Ross, file, fous le camp. Il est parti. Penché contre le vent et les flocons tourbillonnants, il s'élance à travers le crépuscule qui noircit, gravit la pente de pierre grise, puis traverse le village, le noir de ses toits à peine visible sous l'épaisse couche de blanc. Oh Dieu, ma Béa, mon Dieu, ces mots tourbillonnent en un crescendo de peur. Approchant leur cottage en contreplaqué, gris, au bardeau gris silex, ils voient que les fenêtres brillent de tout leur feu dans le noir. Béa d'amour, tu es en vie ? Il ouvre la porte devant et tombe sur la scène que très exactement il redoutait. Une bande de voisines attroupées dans la cuisine et pas de Béatrix en vue. « Où est-elle ? » éclate alors son cri de cœur. D'un mouvement, toutes les femmes se tournent vers lui et disent pour le rassurer et pour qu'il baisse la voix. « Chut, tout va bien, Ross. À tort, à point fermé. Là, eu un petit gars. » Elle l'oblige à se calmer, à retirer bottes et cirés et à s'essuyer visage, cheveux et mains avant de le laisser monter jusqu'à la chambre où sa reine est lovée dans un sommeil d'épuisement. Jetant un coup d'œil à la ronde, il voit que le berceau en osier qu'ils avaient préparé pour l'enfant est toujours au même endroit, près de la commode, vide. Dans leur lit, Béatrix est seule. Il approche, mais ne la réveille donc pas, lui dit dans un murmure la voisine qui l'a suivie dans l'escalier. « Ça a été une sacrée tempête cet après-midi, dans son corps comme au dehors. Faut qu'elle se repose. » Ross voit que la poitrine de son épouse se lève et s'abaisse tranquillement. De ses doigts encore engourdis de froid, il écarte une mèche de cheveux de son visage, puis rejoint la voisine sur le palier et le petit haut. « Viens, » fait-elle. Ensemble, ils retournent à la cuisine où les autres femmes, laissant de côté les bûches par lui entassées, alimentent le feu du poêle avec des brindilles et des copeaux, rien que du petit bois. L'esprit de Ross est un blizzard de questions. Elles le mettent au courant. Le soleil ne s'était jamais levé. Les rafales de neige avaient commencé peu après son départ à 6 heures et les douleurs de Béatrix en même temps. La parturiente avait convoqué à ses côtés deux ou trois d'entre elles. À midi, ses gémissements étaient devenus intenses et les routes impraticables. Le village était enseveli sous la neige. Aucune voiture ne put conduire la femme angésine à l'hôpital de Codborough, ni un médecin de là-bas jusqu'à leur hameau sur la côte nord. Peu après, grâce aux appels téléphoniques ricochant depuis le cottage de Béatrix, la nouvelle de son besoin était parvenue aux oreilles de Dorothée le Jeune, sage-femme autochtone, qui du temps de sa jeunesse avait épousé un blanc et délaissé sa région Micmac dans le sud pour le suivre jusqu'ici. Après avoir grogné son accord dans le combiné, Dorothée s'était dépêchée. En mitouflée dans des châles et des couvertures, elle avait grimpé dans un traîneau à chien, embarquant Diane, sa fille adolescente, pour l'assister. Le temps que l'équipe médicale gagne le cottage où luttait Béatrix, cette autre voisine était venue lui prêter main forte et tout était fin prêt. La durée du travail avait été moyenne, 7 heures. Quand les douleurs la prenaient, Béatrix gémissait et poussait des plaintes, mais dans les intervalles, elle blaguait et bavardait comme si elle prenait le thé. Vers la fin de l'après-midi, la douleur étant devenue grave et à peu près continue, le papotage avait disparu. Enfin, l'enfant avait jailli de son corps en un geyser rougeoyant, puis, lâchant un soupir, était resté inerte. Béatrix avait demandé qu'on le lui mette au sein, mais ses amis voyaient bien qu'arrivé avec un mois d'avance, le garçon était minuscule et presque pas vivant du tout, presque pas humain. Son cœur palpitait, donnait de l'espoir, mais pas de certitude. Après avoir rituellement accueilli l'esprit de l'enfant en langue micmac, Dorothée avait dit, en se tournant vers Béatrix, « Repose-toi, l'enfant vivra. » C'est alors qu'attrapant l'enfanceau de ses grandes mains brunes et douces pour lui nettoyer le corps, elle avait remarqué qu'un de ses testicules n'était pas descendu. « C'est un homme mi-cuit pour le moment », avait-elle dit en anglais. Elle avait emmailloté le bébé et l'avait placé tout contre sa peau en murmurant « Je le mets dans mon sein. » Ensuite, elle avait donné des instructions à sa fille en micmac. Diane était allée tester le poêle à bois et après y avoir glissé quelques brindilles, avait acquiescé la tête. Auquel signal, Dorothée avait doucement glissé le bébé dans le four. Les sourcils des autres femmes étaient montés en flèche. « Il a encore besoin de la chaleur de sa mère », avait dit Dorothée en guise d'explication. Pendant la demi-lune qui vient, le four lui servira de maman. Veillez à garder le feu toujours doux et égal, chaque minute doux et égal. Et quand il pleure, montez-le à l'étage pour son verre de lait frappé. Les amis de Béatrix avaient pouffé d'étonnement et là, quelques heures plus tard, se penchant en un geste de respect sacré, elles ouvrent la porte du four pour le père de l'enfant. Il s'appelle Variant, disent-elles tout bas. Béa a décidé que son nom serait Variant. Et c'est ainsi que le pêcheur grisilien fait la connaissance de son fils endormi, petit paquet qu'on aurait pu prendre pour un roast beef, comme il le dira plus tard, une fois qu'il se sera remis du choc et aura retrouvé son goût pour le bon mot. Et voilà, c'était une chose qui arrivait encore du vivant, donc de gens de, un peu plus âgés que moi. Mais mon ami Jean Morisset, il m'a montré le four où on l'a mis, quoi, le poêle.
En quelle année?
Et donc lui, il est né en 39. Et c'était une nuit de tempête comme ça, et c'était impossible de transporter la mère à l'hôpital.
Oui, ouais. C'est vrai que l'écart qu'il peut y avoir, c'est entre la campagne et la ville aussi, quand tu parlais du changement de monde. C'est aussi celui-là qu'on vit à toute allure. Ouais. C'est-à-dire ouais. Le fait qu'avant, 80% des gens vivaient hors des villes et que maintenant, c'est l'inverse. Et que du coup, ça a changé complètement notre rapport. Mais quand on lit ça, on a plus l'impression que c'est presque quelque chose de fantastique que quelque chose, effectivement, de réel. Mais...
Et de tout récent,
finalement. Ouais. Alors... Comme je sais que les prénoms ont pour toi beaucoup d'importance, je me suis beaucoup interrogée sur le prénom Variant et je t'avoue que je n'ai pas trouvé. C'est le côté changeant ?
Non, je ne sais pas. Il s'est appelé Varick dans la première version parce que Varick est plus un nom allemand. Sa mère est allemande en fait, Béatrix. Et ensuite, je trouvais que c'était trop quelqu'un de trop sûr de lui, Varick. et je voulais un truc un peu plus glauque, un peu plus, non, parce qu'il est très inquiétant, ce jeune homme, il va être très très inquiétant, pour tout vous dire, il va être un serial killer, mais...
mais faut pas tout dire.
Mais donc plus comme un lézard.
Non. Ah oui, oui, le Varan.
Le Varan, plus comme ça. Mais il y a un variant Fry, et je connais un seul variant, mais bon, je l'ai quand même vérifié pour voir que ça existait bien. Personne ne reconnaît ce nom, ni les anglophones, ni les francophones. Peut-être que c'est... Oui, voilà. Ça s'est imposé, je n'arrivais pas à l'appeler autrement. Variant.
Oui, tu parles, puisque c'est toi qui as dit que c'était un serial killer, puisque la plupart d'entre vous ont lu Ligne de faille, il y a quelque chose quand même dans ce personnage-là qui m'a rappelé Sol, c'est-à-dire qu'on a l'impression, pas du tout par le fait qu'il ait eu la même enfance, mais par le trouble qu'il manifeste.
Et je me disais que
Sol, oui c'est ça, c'est un surdoué, oui c'est ça, c'est un surdoué, c'est ce qui m'a fait penser à Sol, et je me disais que c'était comme si tu projetais aussi... l'idée d'une vie future de Sol. Et alors, par rapport à Ligne de faille, hein, puisque j'en parle, il y a quelque chose qui est troublant. C'est que je te connais par ton œuvre d'abord. Et, par exemple, j'ai été très, très marquée par ton essai « Professeur de désespoir » que j'ai lu avant de te connaître et dans lequel je me suis reconnue, enfin dans lequel j'ai retrouvé une famille idéologique très forte, c'est-à-dire lutter contre une tendance très très portée, très très facile, j'allais dire, et en tout cas très omniprésente, qui est une tendance au pessimisme, au nihilisme, au cynisme, et que tu luttes contre ça de toutes tes forces dans Professeur de désespoir, avec en plus des justifications que je trouve tout à fait attirantes et qui m'ont, moi, personnellement, incroyablement réconfortée. Et qui te fait effectivement t'insurger contre les nostalgiques ou contre les gens qui n'arrêtent pas de dire « c'était mieux avant, la vie ne vaut rien », etc. J'ai quand même l'impression que là, alors que je ne te trouve pas plus noire dans la vie, j'ai quand même l'impression... que dans ce roman-là, et le titre peut-être en rend compte, le club des miracles, mais c'est l'adjectif qui est troublant. C'est l'adjectif, enfin, je ne sais pas si vous l'avez encore lu, mais relatif. Effectivement, ce club-là, c'est la seule lueur d'espoir que je trouve dans ton livre. C'est-à-dire comme si, au milieu de cette dévastation qu'on a vraiment décrite sur cette ces chantiers qui sont effectivement des horreurs, hein, où ils empoisonnent les nappes phréatiques, où il y a quelque chose qui est vraiment plus d'humanité, que la seule poche, toute petite poche de protection, c'était ce club composé de 3 personnes.
Ouais, qui faisait lire plein d'autres personnes. C'est un club de lecture.
Oui, club de lecture en écoutant de la musique et en lisant du Tolstoï, du Dostoïevski, du Tchekhov, et surtout le poète Vysotsky. Il y a relatif, quoi, c'est-à-dire...
Je peux déjà répondre un petit peu. D'abord, je n'ai jamais mis un signe d'égalité entre nihilisme et pessimisme. J'ai toujours été pessimiste et je le serai toujours. Mais le livre « Professeur de désespoir » met en cause, enfin, essaie de comprendre pourquoi nous portons au nu des écrivains et philosophes et penseurs qui postulent le non-sens de la vie. Et ça, je ne le ferai jamais. C'est une sorte de religion, une anti-religion, une sorte de religion noire, de dire, puisqu'on va mourir, puisqu'on a eu l'erreur de naître, l'inconvénient d'être né, comme disait Sioran, c'est tragique, c'est dégueulasse, ça n'a aucun sens. La mort enlève le sens de la vie. Et ça, je ne le dirai jamais, je te rassure. Par contre, c'est un livre très sombre, je suis d'accord avec toi. J'étais assez effrayée en l'écrivant. C'est, je ne peux pas dire je m'excuse, parce que c'est comme ça que c'est venu. Mais je pense qu'il y a vraiment de quoi être effrayé, objectivement. Ensuite, je crois aux miracles, mais seulement les miracles relatifs. Et je crois que c'est grave de croire à une sorte de avenir radieux ou un paradis ou une situation où les gens vont tous s'entendre, etc. C'est ça que souvent on attache au mot espoir. Je suis allée écouter récemment à Paris cet extraordinaire auteur black américain qui s'appelle Ta-Nehisi Coates, qui vient d'écrire le titre en anglais, c'est Une colère noire. Et tout au long de ce livre, il dit, c'est un peu de la provocation aussi, mais je le comprends très bien, il dit qu'il est contre l'espoir. Mais il est contre l'espoir au sens où les mouvements de cantiques, voilà, les blacks qui chantaient dans les champs de coton et qui pensaient qu'ils allaient au paradis après que Dieu allait réparer les maux sur la terre, etc. Et donc, il n'aime pas cette idée. Il croit à la lutte, parce que son père était aussi Black Panther. Et moi, je dirais, c'est un peu comme ça. Je crois au miracle relatif, mais il y en a partout, tout le temps. C'est pas juste, c'est un miracle relatif d'être ici avec vous, de discuter avec toi, de pouvoir aller boire une bière à la terrasse d'un café. Enfin, il y a des miracles positifs. D'avoir un bébé, c'est un miracle. D'avoir une bonne conversation, de faire l'amour, d'aller visiter un musée. Il y a des miracles relatifs tout le temps. Et je ne crois pas qu'on va améliorer l'humanité, sincèrement. Je pense, par contre, que ce que l'humanité est en train de faire à la Terre, ça peut nous éliminer. Donc, peut-être que c'est pour ça qu'il y a, en fait, dans ce livre, c'est une lutte vraiment très violente entre deux formes de mal, si on veut, qui sont un mal humain, incarné par Variant, qui est un garçon qui a des terribles problèmes d'adéquation, de se sentir bien dans sa peau, dans la vie, dans le monde, et qui devient violent d'une façon incontrôlable et qu'il n'arrive même pas à regarder en face lui-même. Et puis un mal tranquille, politique, économique, qui dévaste tranquillement avec toute l'autorité de ses armées et ses gouvernements la planète. Et où les hommes se comportent non pas en bêtes ou bêtes sauvages, comme on aime à le dire, mais en machines. Et ce mal-là, ça me fait mille fois plus peur, vraiment. Je pense que c'est ça qui nous menace tellement plus.
Oui, je crois qu'effectivement, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on en prend conscience. C'est-à-dire, je crois qu'il y a vraiment dans la tête de chacun cette idée qu'effectivement, si on continue comme ça, tout le monde a intégré, même si on continue comme ça. Mais intégrer l'idée que de toute façon, si on continue comme ça, l'humanité ne peut pas survivre. Je crois que ça existe, tu sais pas. Il y a eu cette menace, d'abord notre propre mortalité, ensuite la mortalité de la planète par rapport à la menace nucléaire. Et là maintenant, il y a vraiment l'idée de la disparition de notre espèce qui est tout à fait intégrée. Alors on a l'air très noir, tu parles du, tu parles du personnage de Variant, mais comme toujours chez toi, c'est toujours mêlé à beaucoup d'humour. J'aimerais bien que tu nous lises, alors, tu dis serial killer, c'est un serial killer parce qu'il a des problèmes avec les femmes. Tu as parlé de cet homme mi-cuit comme le foie gras, dont le testicule n'est pas descendu et qui fait qu'il a des problèmes avec les femmes et qui... C'est d'ailleurs très élégamment dit, hein, c'est jamais explicite. Par contre, je trouve très, très, très drôle la description des deux catégories de femmes qu'il fait. Tu veux nous la lire, Nancy ?
Avec plaisir. Donc, au lieu de dire c'est la maman et la putain, et lui, dans sa tête, il est très particulier, ce Variant. Il a tout un vocabulaire. Et en tout cas, pour les femmes, c'est les marmottes et les culpettes. Il n'arrive pas à dire je. Et c'est une sorte d'autiste, en fait. Et ici, on est dans un passage, c'est composé, vous pouvez pas voir, mais c'est composé avec des trous et sans ponctuation quand on est dans sa tête, parce qu'il a une sorte de parole très, très haletant. Donc, je vais essayer de vous le lire comme ça. Il s'adresse, il est en prison tout au long d'une série de chapitres. En fait, il est arrêté, il est en prison. Et il essaie de préparer sa défense, ou en tout cas de raconter son histoire à l'avocat qu'on va lui donner. Il espère qu'on va lui donner. On a toujours eu du mal avec les femmes. Tel qu'on voit les choses, en gros, il y a les culpettes et les marmottes. Une culpette est un cul qui se la pète, mais c'est aussi la culpabilité. On pourrait les appeler des culpabêtes, ce qui rendrait leur culpabilité plus évidente, mais laisserait moins percevoir les paillettes, cette surface étincelante qui cache leur saleté noire puante. Les culpettes parlent d'une voix basse et douce. Elles chantent même, parfois, comme des sirènes. Faut pas faire ça, faut pas faire ça. Pas les écouter chanter. Si on s'arrête pour écouter leur chant, on oublie tout. Le bateau se fracasse contre les falaises et on meurt. Il faut toujours enfoncer les doigts dans les oreilles pour ne pas entendre leur chant qui fait lever le soi. Avant de demander qu'on l'attache au mât pour pouvoir écouter les sirènes, Ulysse a pris soin de boucher les oreilles de ses hommes avec de la cire ramollie. Après viennent les marmottes qui donnent et reçoivent avec parcimonie et ne plaisantent jamais. Au lieu de dilapider à la manière des culpettes, elles thésaurisent, grappillent, lésinent et l'emportent. Féministes depuis des millénaires, les marmottes savent tout faire. Tomber enceinte, voter, accoucher, diriger des entreprises, élever des enfants, écrire des thèses, donner des conseils, diriger des séminaires, sur tout et n'importe quoi. Elles vous rendent fou à force d'être raisonnable, d'avoir toujours raison, de si parfaitement savoir ce qui fait du bien et du mal, comment se comporter et ne pas se comporter. Certaines marmottes sont effusives et d'autres abrasives, mais toutes sont criardes, stridentes et égoïstes. Cherchant un répit, on se tourne vers les culpettes, mais elles vous plongent dans la douleur avec leur chant de miel, leur douceur gluante, leur gentillesse terrifiante qui s'insinue tel un serpent dans votre pantalon et cherche à engloutir votre force vitale. C'est pourquoi on se réfugie dans la pyramide des dinosaures, le panthéon des divinités grecques, le tableau des éléments chimiques, les étoiles de la Voie lactée, les espèces animales et végétales de l'Auvergne-Nord en voie de disparition, les groupes humains aussi. Il est un peu malade. Mais c'est vrai que je partage beaucoup de ses opinions, pas forcément celle-là, mais...
Quoique.
Les femmes peuvent être vraiment terrifiantes. Et en Alberta, ce que je remarque, parce que j'y vais assez rarement, et je ne dirais pas ça devant un public albertain qui ressemblerait à celui-ci à peu près, mais ce que je constate dans les situations publiques, les magasins, les boutiques, les restaurants, les bus, la visite de ce site de production pétrolière, c'est que les voix des femmes augmentent d'une demi-octave chaque décennie à peu près. Donc ça fait depuis mon départ, en 68, ça fait 2 octaves plus haut. Et c'est juste incroyable, elles parlent comme... c'est pour ça qu'ils les appellent des marmottes, parce que... Hello Nancy, how are you? It's really wonderful to meet you and I would like you to be getting a nap here, look over here, look on here, and now you be careful, and a wonderful turn, and a wonderful turn. There's wonderful tout le temps. Et on a juste du mal à croire que c'est leur seule voix. On se dit, c'est pas vrai, c'est pas possible. Elles font semblant. Elles peuvent pas parler comme ça quand elles sont avec leur mari, avec leurs enfants à la maison, je sais pas. J'arrive pas à le croire. Ça me donne envie d'étrangler aussi parfois.
C'est ta sensibilité de musicienne que tu as mis dans ton personnage, effectivement, qui supporte pas ces voix stridentes. Mais quand tu disais que tu partages pas forcément, je t'ai dit quoique, il y a quand même quelque chose qui a toujours fait de toi quelqu'un de très paradoxal et qui t'est pas toujours fait des amis avec les féministes. Et entre autres, il y a quelque chose qui là-dedans est très fort, c'est la défense du plaisir absolu de la maternité, la description que tu fais de la maternité, du rapport de cette femme
à son
enfant.
Ah oui,
mais enfant,
elle est terrifiante aussi, cette mère.
Oui, mais il y a
elle
un vrai bonheur, il y a un vrai plaisir.
Oui, mais c'est ça la vie, je veux dire. Ce qui est un plaisir pour une personne peut devenir une torture pour une autre personne. C'est pour ça qu'on a la littérature. Sinon, on aurait résolu tous les problèmes. On aurait pu dire, voilà, ça c'est le bien, ça c'est le mal. Là, c'est la bonne manière d'élever votre enfant, ça c'est la mauvaise manière, etc. Et cette femme, j'ai beaucoup de sympathie pour elle, mais parce que par définition, je ne crée pas des personnages que je n'aime pas. Mais il se trouve qu'elle est venue enfant au Canada parce que l'Allemagne était bombardée. Ses parents ont réussi à l'envoyer chez une tante dans cette province de Terre-Neuve. Donc elle a survécu à la guerre, toute sa famille est morte. Et après la guerre, les Allemands étaient persona non grata, bien sûr. Il y avait une très grande communauté allemande à Terre-Neuve. Et donc, elle a caché son identité allemande. Dès qu'elle a épousé Ross et qu'elle est venue sur la côte nord, elle n'a plus jamais dit à personne qu'elle n'était pas canadienne d'origine. Et donc, avec ce fils inattendu, elle a une sorte de fantasme, la Vierge Marie, quoi. Elle l'adore et elle commence à lui parler en allemand. C'est la première fois qu'elle redit les mots allemands parce que ça la relie à sa propre famille, à son héritage allemand et tout. Et donc, elle va l'étouffer complètement, je veux dire. C'est pas du tout montré comme une bonne mère, même si on vit de son intérieur le plaisir qu'elle a à l'allaiter, etc. En fait, je crois que c'est clair qu'elle l'étouffe.
C'est drôle parce que tu parles vraiment d'elle comme si elle existait. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais vraiment, il y a une chose de dire, tiens, c'est quelqu'un qui est là. Et c'est un point aussi de comparaison. Enfin, un auteur a une œuvre comme la tienne, a des tas de fils qu'on retrouve comme ça. Quand je parlais de la ressemblance avec Sol, c'est ce qui fait aussi le point de ressemblance. Tu viens de dire qu'elle avait une relation avec lui comme la Vierge Marie avec son enfant, ce qui était le cas de Sol. Il le dit lui-même. Il dit c'est un peu comme Marie avec son enfant.
Je pense que si la Vierge Marie a eu tant de succès, c'est qu'elle parlait à beaucoup de femmes. Elle parlait à beaucoup de femmes. C'était un plaisir possible pour les femmes. C'était de montrer un rapport homme-femme ou mâle-femelle qui était très, très jouissif pour les filles. Sinon, ça n'aurait jamais fonctionné pendant tous ces siècles, dans tant de pays du monde.
De donner la vie à un génie.
Et puis de le voir tout nu là-haut, adulé par tout le monde. Waouh, il est beau.
Il est crucifié avant quand même. Il n'y est pas monté en pleine forme.
Mais il y a un fantasme comme ça chez les femmes, je pense, parce que à cause de notre nature animale, les femelles sont quand même un peu heurtées, un peu violentées, un peu violées, un peu incestisées par les hommes assez souvent dans l'histoire de l'humanité. Et ça m'a frappée quand j'ai travaillé sur Simone Veil, la philosophe, pas la politicienne, comme elle avait ce fantasme de l'homme cassé, quoi. Elle aimait Jésus-Christ. D'abord, elle était juive, mais elle était très, très amoureuse de Jésus. Et Joël Bosquet, et elle a écrit à De Gaulle pour qu'il lui donne la permission d'aller sur le front, là où les hommes étaient en train de souffrir et de mourir. C'était ça qu'elle pouvait aimer comme virilité, quoi. Et donc, y compris le Christ sacrifié, Beckett parle très très bien de ça. Il parle de cette descente de la croix qui est dans le musée de Dublin. Et comme les femmes sont tout autour, il y a plusieurs femmes autour du cadavre de Jésus qui est hyper sexy, qui est tout dénudé comme ça. Et les femmes sont en train de le zioter. Et il a relevé ça. Ça ne m'avait jamais paru aussi clairement.
Ce qui n'est pas du tout la vision de Pasolini quand tu vas dans l'évangile, le cri que pousse la mère au moment où il monte sur la croix, c'est un moment magnifique. C'était sa propre mère d'ailleurs qui jouait ça.
C'est vrai.
Ouais. Et il lui a demandé de refaire le cri qu'elle avait poussé quand elle a appris que son fils avait été tué à la guerre. Donc c'est un moment, si vous le regardez, c'est quand on le re-regarde et qu'on pense à ça, c'est une chose très très forte.
J'aimerais parler
revenir
de ce
au
troisième
livre.
petit livre que j'ai fait avec mon compagnon, effectivement, Guy Auberson. Il s'appelle La fille poilue. Et j'ai raconté tout à l'heure on nous a dit qu'il y avait un article sur le livre dans un journal suisse qui s'appelle La Liberté. Donc, on a essayé de chercher sur Internet en écrivant La fille poilue, La Liberté, et on est tombé que sur des sites pornographiques. Mais c'est une sorte de conte de fées. L'histoire se déroule de tout temps. C'est bien évidemment l'histoire d'une princesse, car toutes les petites filles sont des princesses. Et du roi son père, car tous les pères sont des rois. Ensuite, l'intrigue se corse de manière prévisible, la mère s'efface d'une manière ou d'une autre, et tôt ou tard advient la belle-mère que l'on appelle marâtre. Arrêtons-nous un instant sur ce mot. D'abord, chose singulière, là où tous les rapports de parenté sont symétriques et réversibles, on a un père pour une fille, un époux pour une épouse, une grand-mère pour un petit-fils, un cousin pour une cousine et même une belle-fille pour une belle-mère. Pour une marâtre, on n'a rien, ni fillâtre, ni fissâtre. Et la singularité du mot ne s'arrête pas là. De tous les autres mots en âtre, on peut deviner la racine. Jaunâtre vient de jaune, verdâtre de vert, psychiatre de psyché. Mais marâtre, de façon confondante, ne vient pas de mar. C'est une sorte de mer miasme, de mer marasme, une vraie sous-mer, si l'on ose dire. Qui ne peut en aucun cas être qualifiée de belle. Mais il se trouve que dans notre histoire, les choses se passent autrement. La marâtre, au début au moins, est une belle jeune femme débordante d'énergie et de bonne volonté, et c'est la fille qui est monstrueuse. Et donc, c'est ça, c'est cette belle-mère qui va essayer de... Elle découvre une fille qui est presque un petit animal, et elle va essayer de la... civilisée, de lui couper tous les poils, de la faire que le corps rentre dans l'intérieur. Ça, c'est une des images de la fille poilue. Et on s'est beaucoup amusé à faire ça. Donc, les éditions du Chemin de fer, que j'adore, et qui fêtent leurs 10 ans en ce moment. Merci de votre attention. Merci Catherine, merci.
Merci beaucoup. À toi, Nancy.